Bonjour, la danse des mots sur RFI, qui aujourd'hui va s'intéresser sur cette formule paradoxale, nos ancêtres, les Arabes. C'est le titre d'un livre qui vient de sortir aux éditions Lattès et qui est sous-titré « Ce que notre langue leur doit ». Non pas à ses ancêtres, mais aux Arabes, bien sûr. Alors, c'est un livre qui a été signé par Jean Pruvot, qu'on connaît bien ici parce qu'il est venu assez souvent parler de littérature, parler plus de langue, parler souvent de dictionnaire parce que c'est l'une de ses spécialités. On l'entend assez régulièrement dans La puce à l'oreille de Lucie Bouteloup. Et aujourd'hui, on va l'entendre parler arabe, non, parler français avec un souvenir de ce que c'est que l'arabe. Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour Yvan.
Merci bien d'être là. C'est toujours difficile de poser des questions sur les pourcentages. On sait bien que les pourcentages mentent et que les chiffres, il ne faut pas s'y fier. Même si le mot chiffre dérive bien sûr de l'arabe, comme le mot zéro, dont c'est le doublet, plus ou moins. Mais dites-moi un petit peu, comment est-ce qu'on peut évaluer la part de mots dans le lexique français qui viennent de l'arabe ?
Alors, en gros, ce que finalement peu de gens savent, c'est que c'est la troisième langue d'emprunt. C'est-à-dire que une fois que la langue française a été constituée à partir d'un peu de gaulois, très peu, beaucoup de latin et des mots germaniques, la langue française est constituée. Eh bien, il y a trois langues d'emprunt et la première, c'est l'anglais quantitativement. Ensuite, c'est l'italien. On le voit pas, mais on a intégré énormément les mots. Et la troisième langue d'emprunt, c'est l'arabe. Avec beaucoup plus de mots arabes, peut-être quatre fois plus. Certains disent deux fois plus. Moi, je pense que c'est quatre fois plus de mots arabes que de mots gaulois, en fait, dans notre langue.
Parce que des mots gaulois, de toute façon, oui, il y en a pas beaucoup, des mots d'origine celtique, il y en a très peu.
À peine une
centaine. Et la plupart, d'ailleurs, se concentrent sur les mêmes sujets, c'est-à-dire la terre, l'agriculture et puis un petit peu de guerre, parce qu'il fallait bien être un peu belliqueux.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le mouton, la lande, le chêne, le bouleau.
L'if, je crois.
Oui, l'if, tout à fait, millénaire, alors bimillénaire là. Et en fait, ce sont les mots gaulois qui nous sont restés, ce sont les mots qui n'étaient pas commercialisés. La ruche, par exemple, est un mot gaulois, mais le miel
même,
est un mot latin.
Parce que la ruche...
Ne se vendait pas.
Ça se vend pas. Alors que le miel, ça se consomme, voilà. Mais ça se donne et ça s'échange. Donc ça peut traverser les frontières.
Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le matin, c'est comme ça que cette idée m'est venue, de faire ce livre. Je m'aperçois que quand le matin, je sirote, mot arabe, une tasse, mot arabe, deux cafés, mot arabe, je mets zéro, on vient de le dire, mot arabe, sucre, mot arabe, et que je prends un jus d'orange, eh ben, je parle arabe. Et puis, si
pas. Eh ben, non, vous parlez français, Jean-Claude.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai, avec des mots qui dérivent de l'arabe et qui sont donc extrêmement fréquents et variés.
C'est cela, et bon, il y a très peu de temps, c'était le jour de la femme. Et si, par hasard, mot arabe, on fait les magasins, mot arabe, avec des tarifs, mot arabe imbattables, et que mon épouse achète une jupe, que je lui offre, c'est quand même plus joli, que je lui offre une jupe, mot arabe, de coton, mot arabe, un gilet, mot arabe. Bon, on s'aperçoit que, et qu'on pose tout ça sur le divan, on est dans les mots arabes. Donc, ils sont très intégrés à notre langue, et on ne peut pas dire que les personnes le savent. Quand on prend un sucre et un café, on pense pas à l'arabe, et pourtant, c'est une longue histoire, et
oui,
qui est merveilleuse.
Et ce qui peut étonner, c'est que l'héritage arabe concerne des mots extrêmement fréquents, extrêmement courants. Il ne s'agit pas uniquement de mots précis, de mots qui désignent des réalités des pays où on parlait l'arabe. Mm-hmm. Ce n'est pas vrai, hein, ou ce n'est plus vrai. Et ce sont des mots qui sont présents dans la langue française depuis belle lurette.
Oui, alors en fait, tout s'est joué au IXe siècle, quand, dans le fond, la langue française commence à être écrite. Et à partir de là, on voit que l'influence de Cordoue et donc des conquêtes arabes en Espagne, s'est fait sentir, de même que le commerce de la flotte arabe dans la mer Méditerranée a été intense et nous a apporté, alors je ne sais pas, les artichauts. Quand on prend les mots A, simplement les mots A, abricot, artichaut, auberge, asperge. Tous ces mots-là nous viennent des pays arabes parce qu'on ne savait pas les cultiver.
Alors vous avez mentionné Cordoue et on apprend en lisant votre livre que Cordoue, justement à peu près à cette période, et peut-être un petit peu plus tard, est une ville extrêmement importante avec un immense rayonnement intellectuel et qu'elle égale pratiquement en importance la ville de Bagdad pour tout ce qui est la sphère d'influence arabe.
C'est agréable d'être lu comme ça, Yvan, parce que c'est vraiment effectivement essentiel. Bon, Cordoue a été la plus grande bibliothèque de l'Europe. On y venait pour apprendre les sciences. Il y avait Avicenne qui s'y trouvait avec ses fameux canons de la médecine. Averroès, ensuite, qui nous a fait connaître Aristote. Donc là, Avicenne est né en 980 et Averroès en 1126. Donc on est là véritablement dans un univers savant et il faut l'avouer, algèbre, algorithmes, chiffres, calibrage, amalgame, chimie, alchimie, tous ces mots sont nés presque à Cordoue, ou en tout cas dans la langue arabe, ils sont passés ensuite en Europe, et parfois par le biais du latin aussi.
Alors, vous venez de mentionner un certain nombre de mots comme abricot, algèbre. Est-ce qu'il y a des recettes pour essayer de deviner si un mot vient de l'arabe ? Prenons par exemple ces préfixes. Très souvent, les mots qui dérivent de l'arabe commencent par un A parce que simplement, on a emprunté non pas uniquement le nom, le substantif, mais on l'a pris avec le port et l'emballage. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris l'article avant. Et l'article, très souvent, en arabe, l'un des articles, c'est al.
Eh ben c'est ça, c'est effectivement beaucoup de mots qui commencent par al. Al, c'est l'équivalent de elle en Espagne, c'est l'article dans le fond, et on l'a amalgamé, et on va se retrouver avec des mots qui effectivement comme azimut, comme azulero, comme azérol, mais bien sûr comme algèbre, comme amiral.
Azérol, vous avez dit ?
Oui, azérol, alors ça en fait partie, là c'est pas le al qui s'y trouve, mais on est dans des mots qui sont tout à fait emprunts de cette fameuse langue arabe et de cet article. Alors c'est un des points, énormément de mots, non pas énormément, mais un bon pourcentage, 15 à 20%, viennent dans la lettre A, mais il y en a à la lettre K, il y en a à toutes les lettres.
Avec quelques ruses de temps en temps, ne serait-ce que lorsqu'on pense au mot « amiral ».
Oui, alors « amiral » est un joli mot, parce que si dans le fond on le coupe et qu'on fait « amir », on n'est pas très loin de « l'émir », et c'est effectivement un émir, c'est-à-dire un chef, un prince, et c'est l'émir de la mer, le prince de la mer, et c'était « amir al-bar », « al-bar » étant la mer. Et on a fait « amiral », puis bon, comme toujours, on abrège, et on se retrouve avec le mot « amiral ».
Darbeida, c'est ce qu'on entend actuellement avec l'excellente flûtiste française d'origine syrienne qui est Naysam Jalal dans La danse des mots qui aujourd'hui réfléchit à la dette que la langue française a par rapport à la langue et aux cultures arabes. Alors Jean Prouvot, je rappelle que vous venez de faire paraître un livre sur ce sujet, Nos ancêtres les Arabes, dans lequel vous rappelez ce distinguo absolument charmant qui a été inventé par les Bruno O.T. et E.A.U., deux grands linguistes du début du XXe siècle, l'un étant l'élève de l'autre, mais ils n'avaient pas de lien de parenté, même s'ils étaient homonymes. Alors, eux distinguent ce qu'ils appellent les emprunts nécessaires et les emprunts de luxe. Dites-nous un petit peu la différence entre l'un et l'autre.
Ben écoutez, finalement, je vais prendre des mots arabes qui correspondent. Avoir le cafard est un peu familier, mais pas vraiment. C'est devenu d'usage courant. C'est un mot arabe, cafard.
Contrairement à avoir le blues qui vient quand
voilà,
même de l'Amérique.
Avoir le blues, c'est de l'anglais. Mais il y a aussi maintenant avoir le somme. Alors les jeunes disent beaucoup avoir le somme. Si on sait que le somme, ça veut dire le venin, bon, on comprend que c'est avoir le venin, donc être très énervé. Et parfois, bon, la publicité vient au secours des mots arabes qui s'implantent et entrent dans les dictionnaires, puisque kiffer, par exemple, y est entré depuis un moment.
Oui, même si c'est familier, bien
oui,
sûr.
Oui, voilà.
C'est
voilà.
Dans la langue et dans
voilà,
le dictionnaire.
Avec d'ailleurs deux variantes, kiff-kiff-bourricot, que disait ma grand-mère, et kiffer maintenant, qui est autre chose. Et avoir le somme, avoir le venin, bon, bah, c'est mot familier, c'est un emprunt, donc, de luxe. Du côté familier. Hein, parce que l'emprunt de luxe, c'est celui dont on pourrait se passer, en fait. Il y a l'emprunt nécessaire, café, je ne peux pas m'en passer.
Bon, oui, l'emprunt nécessaire, donc, concerne des mots qui désignent une réalité qui entre dans un
oui.
usage français. Donc, il faut un mot et on ne l'a pas.
Voilà,
parce que la denrée en question, on ne l'avait pas au préalable.
C'est exactement ça. Hein, si j'évoque l'algèbre, je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Si j'évoque le divan, je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Et donc, Orange, c'est la même chose. J'ai pas d'autres mots pour dire ça. Alors que avoir le cafard ou avoir le somme ou avoir les idées noires, on voit bien que là il y a un jeu sur les strates de langue. Et c'est pour ça que d'ailleurs il ne faut pas avoir peur d'un des aspects que je soulève dans l'ouvrage, qui est dans le fond des mots du Moyen-Âge bien intégrés aux mots du rap, hein, qui arrivent avec donc des jeunes qui nous installent, kiffer, c'est kiffant.
Alors Jean Prouvé, vous venez de mentionner deux périodes bien différentes, hein, la période du rap, c'est-à-dire aujourd'hui, et la période du Moyen-Âge. Entre ces deux périodes, bien sûr, il y a eu de très nombreux emprunts à l'arabe, mais pas de façon continue. Alors, quelles sont les grandes périodes où justement le français va s'abreuver à la langue et à la culture arabe ?
Alors, c'est à la fois un petit peu les voies d'accès, parce que la première, c'est les croisades. On n'a presque rien rapporté des croisades. Quelques mots quand même, le crack, mais enfin, il est bien intégré.
Qu'est-ce que c'est qu'un crack,
crack,
un château fort,
oui,
une
voilà,
forteresse,
notamment en Syrie. Alors après, il y a les conquêtes religieuses, c'est-à-dire quand l'empire arabe s'installe, effectivement, égir, émir, calife, vizir, voilà autant de mots qui s'installent vraiment fortement.
C'est vrai, mais qui sont toujours référés à une réalité arabisante.
Oui,
vous parlez
ça,
de calife et de vizir, bah, il n'y a que de façon plaisante ou bien par métaphore, par image, qu'on va parler d'un vizir à propos d'un ministre français. Sans ça, le vizir, ça évoque le sérail. Hein.
Tout à fait. Et alors après, il y a ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle les voies commerciales, c'est-à-dire passant par Venise, passant par tout le bassin méditerranéen que dominait la flotte arabe. Et là, c'est toute une série de mots qui s'installent, avec parfois des mots dont on n'a pas conscience qu'ils sont arabes, comme tarif, comme gilet, comme lila. Le lila et le jasmin de fleurs, notre pays est couvert de lilas, la belle saison, ce sont des mots arabes.
C'est vrai.
Totalement.
Et lilas est aussi un prénom quand
oui.
même extrêmement fréquent dans la culture arabe.
Fait.
C'est un prénom féminin très courant.
Très bien, comme les fleurs, Yasmina, bon voilà, c'est jasmin, et donc tout ça est absolument charmant. Et puis il y a la colonisation. Alors la colonisation, on change, et là vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, on change de registre, hein, puisque là on
donc
est...
Donc là on est... Au-delà de 1830.
Oui, on est dans les années 1870, c'est la conquête de l'Algérie, et j'y assimile aussi la décolonisation qui va venir ensuite. Et là, il y a des mots, évidemment, comme zouave, comme gourbi, qui au départ était un joli mot. Gourbi, c'était une petite tente où on pouvait même enseigner. Et puis des mots comme le kleps. Et tout le monde ne sait pas d'ailleurs que kleps est un mot arabe. Hein. On a fait klebar après dessus qui montre qu'ils sont aussi intégrés. Faire la nouba, un bled. Et les jeunes aujourd'hui évoquent les blédards, bon, le burnou, la djellaba, bon, puis des mots, bon, j'ose à peine les dire, mais les glaouis, et puis de l'autre côté, il y a la nourriture, le couscous. Alors ça, c'est un peu la décolonisation, c'est les pieds noirs qui nous ramènent le couscous, le méchoui, le merguez.
Mais c'est vrai qu'au tournant du 19e, 20e siècle, il y a eu un certain nombre de mots qui faisaient partie de l'argot militaire ou de la langue familière des militaires et ensuite des colons. Mais la colonisation, c'était d'abord militaire.
Oui, c'est ça. Et donc, on a forcément des mots, du coup, valorisants aussi. Le baroute. Mm-hmm. Hein, un baroudé, un baroudeur. Et dès qu'on les, d'ailleurs, dérive avec des suffixes, ça veut dire qu'ils sont totalement intégrés. Puis alors, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai été heureux de le développer. C'est le patouette. Alors, le patouette,
on n'en parle plus beaucoup. On en a beaucoup parlé à une certaine époque. C'était très à la mode de faire, par exemple, des parodies. La parodie du Cid en patouette.
Oui, c'est ça.
C'était très drôle. Hein.
Voilà. Alors, le patouette, c'est un mot qui est déformé de patois, en fait. Et c'était le patois, en fait, de ceux qui s'installaient à Babeloued, on l'appelait comme ça,
les patoisans. À Babeloued, c'était donc un quartier d'Alger.
Oui, oui. Enfin,
c'est toujours.
Voilà, un quartier d'Alger où se mélangeaient un peu toutes les langues. Et puis, bon, il y a eu de grandes figures.
Mais alors, vous ne nous dites pas ce que c'est que le patouette.
Alors, le patouette, c'est ce parler qui se mélange, qui s'installe à Babeloued, où, dans le fond, on retrouve des mots que Roger Hanin va avoir plaisir à mettre en avant, et qui sont ces mots que les pieds noirs vont nous rapporter. Il y avait d'abord les cagailloux. Cagailloux était un des personnages, avec Musette, et avec un phrasé aussi, qui est typiquement celui de Roger Hanin.
Oui, alors, avec un accent, avec un phrasé, et puis c'est vrai, avec un pittoresque qui, de temps en temps, a peut-être été un peu trop souligné, oui, avec un peu de complaisance, mais de temps en temps, c'était vraiment drôle, c'est vrai. Et le patouette est resté assez associé à l'argot des pieds noir. Donc, il a été assez mal vu à une époque.
Oui,
parce qu'on s'en moquait de façon un peu facile, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors maintenant, il faut presque l'évoquer de manière historique. Puis alors, la dernière voie d'accès, ce sont les jeunes qui font du rap, les rappeurs. Et à travers, ça commence, je dirais, avec Azouz Begag, qui c'est pas un rappeur, mais quand il écrit le gone du Shabba, bon, une espèce de banlieue. Et puis, on va avoir avec Kiffé, le Tug, Zeref, la Zouz campagnarde, qui signifie Madame Bovary, revue, par les bolos. Bon, on se retrouve avec des mots de ce type. Et puis, finalement, Kiffé, Kiffant, où Eric Orsenna dit qu'il faudrait l'introduire dans les dictionnaires, mais pourquoi pas, bien sûr, puisque ce mot est quand même familier, mais gentiment familier, et très différent de ce que disait ma grand-mère, qui était kiff kiff bourricot.
La danse des mots, toujours avec vous, Jean Pruvot, à propos de Nos ancêtres, les Arabes, qui est le nom de votre dernier livre, consacré donc à cet héritage arabe qu'on trouve dans la langue française, qui n'est pas toujours arrivé directement avec des mots qui, de temps en temps, sont d'origine plus ancienne, qui ne sont pas des mots arabes. Si, par exemple, on parle d'échec, vous mentionnez très judicieusement dans votre livre que c'est la langue arabe qui a fait passer le mot échec en français. Mais le mot échec vient d'ailleurs, en fait.
Oui, alors ce sont des mots d'origine persane. Et ce qui est très vrai, c'est que la langue arabe est une langue de médiation aussi. Et que très souvent, des mots sont arrivés de tout cet Orient, voire de l'Extrême-Orient aussi. Le satin vient de Chine, par exemple, mais passé par la langue arabe, il devient arabe, puis finalement français, enfin européen. Et donc on a, avec la grande civilisation arabe, une sorte de recueil des mots de tout cet Orient, filtrés, qui nous sont redonner. Alors le café a cette même aventure.
Parce que le café fait appel à une tradition ottomane et plus à la Turquie. Hein.
Oui, c'est ça. Alors c'est un mot qui était. Alors on n'est pas trop sûr de l'origine du café. C'est exactement comme le vin. Ces produits formidables qui inondent notre planète et nous sont en principe bienfaiteurs, bienvenus. On sait pas toujours l'origine précise. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été du côté des Turcs, emprunté, repris en latin savant sous la forme kawa. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui
c'est devenu un mot familier, bien sûr. Oui.
Et alors finalement, c'est attesté en 1592 chez un botaniste, dans un ouvrage sur les plantes, bien sûr, qui décrit ces plantes inconnues en Europe. Et puis après, c'est la graine du caféier qui prend le dessus. Et de la traduction de kawa, il y aura à un moment donné le shaon, la shaon. Et on arrive au café. Et au XVIIIe siècle, on sait combien avec Voltaire, le Procope, etc., cette boisson va devenir symbole presque culturel. Hein.
Et oui, d'une certaine intelligence et d'une certaine ouverture en fait à l'autre, alors même qu'on disait à une époque, Racine passera comme le café. Vous mentionniez la géographie, Jean Pruvot, et cette géographie, on la sent, on la touche du doigt dans un certain nombre de mots. Vous avez mentionné par exemple le satin qui vient d'une ville, du nom d'une ville où on fabriquait cette étoffe.
Oui, alors c'est ça qui est merveilleux. Quand une dame ou un homme, veut, si vous voulez, avoir des tissus de qualité, il aimera avoir de la gaze. Bon, ça vient de Gaza. La mousseline, bon, il y a la purée, d'accord, mais il y a aussi, bien sûr, le tissu qui est très fin, et on est, dans ce cas-là, à Mossoul. C'est parfois inattendu. Mohair, un pull mohair, évidemment, c'est passé par l'Angleterre, mais c'est la moire. Et la moire vient, effectivement, du monde arabe. Et donc, on a là toute une série de mots qui font qu'ils sont marqués. Une épée damasquinée, une étoffe damassée. Alors là, l'origine géographique, elle est typique.
C'est Damas.
C'est Damas.
Mmh. Hein. Alors, on voit tous ces mots précieux, ces objets précieux, et même ces pierres précieuses. Parce que là aussi, c'est un gobelet où on trouve beaucoup de pépites.
Oui, alors, il y a l'ambre. Hein, bon, évidemment, l'ambre jaune. Alors, des mots qu'il faut évidemment ne pas confondre avec le jaunet, c'est le balai. Hein, c'est un mot pour distinguer un rubis qui est rose pâle. Le camé, alors on n'est pas toujours très sûr. On pense que le camé est d'origine arabe. Alors, des mots comme kara.
Kara, qu'on écrit avec un C aujourd'hui, mais que naguère on écrivait avec un K à l'initiale, ce qui montre bien son origine.
Voilà, et qui était une graine de caroube, donc un tout petit point. Hein. On est là dans quelque chose de précis. Lapis lazuli, le morphile, on le disait beaucoup au Moyen-Âge,
on ne le dit plus. On le dit moins aujourd'hui, le morphile.
Voilà, bon, mais c'était donc de l'ivoire, hein, brut. Tous les objets en nacre.
Et alors, donc, la nacre, justement, vous lui consacrez un paragraphe tout à fait important, puisque c'est ce qu'on appelait de ce nom absolument charmant lapine marine au départ, mais aujourd'hui, Dieu merci, on dit la nacre.
Oui, c'est ça, et qui évidemment a été très précieux à la fois pour les meubles, en même temps pour les bijoux, et puis ça a donné... Alors c'est là quelque chose que j'ai essayé aussi de mettre en valeur, les écrivains romantiques, qui au XIXe siècle ont été séduits par l'orientalisme, et du coup, les ciels nacrés, et on a les orientales avec Victor
Hugo. Alors, on a les orientales qui ont eu un succès fou, et qui est l'un des premiers recueils de Victor Hugo. Je crois qu'il n'a pas 30 ans quand il fait paraître les orientales.
Il n'a pas 30 ans, hein, c'est quelque chose qui est paru en 1829.
Hein, donc, il en a 27, oui.
Et où il décline toute une série de poèmes consacrés au monde arabe, qui sont vraiment merveilleux. C'est lui qui a un peu lancé le mouvement. Chateaubriand, auparavant, en 1811, avait publié l'itinéraire de Paris,
Paris
à Jérusalem.
Oui.
Et qui était aussi... Bon,
bah, donc il a fait peut-être le lit de Hugo, mais Hugo voulait être Chateaubriand ou rien.
Rien.
Et c'est vrai que ça a donné naissance à tout un goût pour cette splendeur, en fait, des mille et une nuits. Enfin, bon, les mille et une nuits ont été une invention des traducteurs, mais ont été connues bien avant. Mais au XIXe siècle, il y a eu un goût extraordinaire pour l'orientalisme, au-delà de Hugo, d'ailleurs.
Alors, au point même qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'INALCO, l'Institut National, s'est lancé littéralement au moment de la Révolution, et on a très bien compris qu'il fallait s'intéresser à la traduction de la langue arabe. On a eu des orientalistes extraordinaires avec, par exemple, Sassi. Son fils était ensuite académicien et était à l'aube de la 7e édition du dictionnaire. Donc, il y a eu un grand mouvement. Il y a des mots qu'on ignore, mais le truchement, par exemple...
Alors, j'allais y venir. Hélas, on ne parle plus beaucoup de truchement. On en parle, par exemple, chez Molière.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'un truchement ?
Eh ben, un truchement, alors, au sens moderne, c'est une intervention, c'est une traduction, c'est quelqu'un qui vous aide, mais au départ, c'est le drumman, c'est-à-dire, il n'y a rien à voir avec un mot anglais, celui qui est le traducteur, qui était très important. Louis XIV, quand il reçoit les vizirs, les émirs, a besoin d'un drumman. Et ils ont fondé une école, et c'est un peu à l'orée de l'INALCO, par exemple.
Et donc, il faut un truchement pour comprendre ce que vous dit le Mamamou ou ce qu'on va dire au Mamamouchi.
Oui, c'est ça. Il faut éviter les confusions. Et on avait vraiment conscience de l'importance de la langue arabe. Il faut savoir que sous l'Antiquité, on disait qu'il y avait trois cœurs, le grec, le latin et la langue arabe.
Eh ben, merci beaucoup Jean Pruvot pour tout ça. Je rappelle que vous venez de faire paraître « Nos ancêtres les Arabes », que c'est sous-titré « Ce que notre langue leur doit », que c'est paru chez Lattès. C'est un gros livre, mais qui se lit extrêmement facilement.
Oui,
parce
cher.
Que il est pas combien il coûte 19 euros.
Oui.
Ça, c'est formidable. Un livre comme ça pour 19 euros, mais qu'est-ce qu'on attend pour aller l'acheter? En tout cas, ça se lit très facilement parce que ça donne beaucoup de renseignements extrêmement savants d'un point de vue linguistique, mais que vous faites passer avec un sourire et énormément d'anecdotes. Merci donc d'avoir été l'invité aujourd'hui de cette danse des mots qui vous est proposée par le réseau Canopée et par RFI. Je vous rappelle, puisque vous vous intéressez aux langues étrangères, que notre jeu Spicon français court encore jusqu'au 13 mars. Il n'est que temps d'y répondre. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar, c'était la danse des mots.